Le DAF est clair. Le DAF, c'est clair avec Tora Box et Ravishai Asayag.
Te Baba Batra, page 80, DAF P.
Bonjour à tous, c'est le DAF est clair, Baba Batra P. La Mishnah nous enseigne que celui qui a acheté les oisillons d'un nid, il pourra prendre ceux qui sont là par exemple sur un an, mais il devrait laisser la première portée. S'il achète les abeilles, eh bien là aussi, ce sera les trois premières portées, après il s'arrêtera. Les chalotes de vache, le miel, il devra laisser deux chalotes, deux parts de miel. Et s'il a acheté le bois d'un olivier, il doit laisser deux branches. Demande la Gemara, quand tu dis qu'il doit laisser la première portée des oiseaux, alors il y a marqué qu'il doit en laisser deux. Nous dit la Gemara, c'est vrai. En vérité, il doit laisser pour la mère, il doit laisser la première portée. Pour ses enfants, de la première portée, il faut leur laisser aussi la première portée. Demande la Gemara, pourquoi est-ce que pour la mère, on se suffit de la fille? La fille aussi devrait se suffire de sa mère. Pourquoi est-ce qu'elle a besoin, elle aussi, de sa fille? Nous dit la Gemara, parce que la mère se suffit de la présence de sa fille. La fille ne se suffit pas, elle, de la présence de sa mère. C'est pour cela qu'il faut qu'il lui laisse, il reste sa fille aussi. Au sujet des abeilles, comment est-ce que tu fais pour arrêter de qu'elles procréent? Alors, vous allez dire, on leur donne du khardal. Explique la Gemara, c'est pas que le khardal les empêche, c'est que quand elles sont, c'est piquant pour eux, elles vont aller manger du miel. Et au lieu de procréer, elles vont donc en faire. Le khardal dit qu'on ne les empêche pas de procréer, simplement, on va prendre Bessiro, c'est-à-dire les trois premiers groupes, le premier pour l'acheteur, le deuxième pour le vendeur, etc. Dans la vérité, c'est marqué que les trois premières portées, c'est pour l'acheteur, et après, un sur deux, c'est pour l'acheteur. Afkan nous dit que le miel qui est dans une ruche n'est pas défini comme de la. Il est une enoetim demachal olam. C'est-à-dire que sans intention, il est déjà défini comme achal olam. Pour te démarquer que le dvaj dans la caverette, il est ni ochel ni mashkem. Explique à Abaye qu'on parle seulement des deux pains de miel qui sont destinés aux abeilles. Rava, lui, n'aime pas cette réponse. Il dit tout simplement si ça va d'après Rabbi Eliezer. On a une marquette fondamentale entre Rabbi Eliezer et Chachamim. Rabbi Eliezer pense que tout ce qui est dans la ruche est défini comme karka, c'est pour ça qu'on peut écrire un pose-boule. C'est pour ça que ce n'est pas Mekabel Touma, c'est pour cela aussi que celui qui prend quelque chose pendant le Shabbat de là-bas, il est Chayafratat. Contrairement à Chachamim. Pour quelle raison Rabbi Eliezer pense que c'est défini comme karka? Parce qu'il est marqué Yarot el vache. Pourquoi il est marqué Yarot el vache? Forcément pour dire que c'est comme une forêt, et c'est pour ça que c'est défini comme karka. Donc la Gemara. Il est marqué dans une braïta que le miel qui coule d'une caverette n'est ni ochel ni mashke. D'après Abaye, je peux comprendre, parce qu'on parle de ces deux pains de miel qui ne sont pas définis comme la nourriture. Et d'après Rava, pourquoi est-ce que ce n'est pas machal ou mashke? De la Gemara de réponse, alors ça tombe dans un climaus, ou alors ça tombe sur des petits morceaux de bois, il est difficile de récupérer le miel. La Gemara dans la braïta, c'est marqué que le vache dans une caverette n'est ni ochel ni mashke s'il avait l'intention de le rendre. Ochel et mashke, ça aurait pu l'être. D'après Abaye, je comprends. Parce qu'avec son intention, c'est devenu de la nourriture pour l'homme. Mais d'après Rava, je ne comprends pas, parce que c'est karaka. Et pour la Gemara, non, il fallait la brater différemment. Sache que c'est défini comme karaka, et c'est pour cela que ça n'aura aucun impact, même s'il pense pour le khel ou pour le mashkel. Zetim, on a dit qu'il faut qu'il laisse deux branches. La Gemara, que celui qui achète un arbre, il doit laisser un tefar. S'il est kotsez, betulat shikma, il doit laisser trois tefarim. Zdan, shikma, celui qui a déjà été coupé et qui est un peu plus large, deux tefarim. Kanim ou kfanim, il faut miyakak ou les mala. Kalim Verazim, il peut même complètement le décimer, puisque le Geza, de toutes les façons, n'a aucune chance de repousser. Non, la Gemara, Betulata, Shikma, trois de Fahim. Pourtant, dans la Shemitah, au sujet de la Shemitah, il est marqué. Dans la Gemara, pense que on n'a pas le droit d'être Kotses, Betulata, Shikma, parce que c'est défini comme un travail de développement. Abida pense que si tu fais de manière habituelle, tu as raison. Et si tu fais de manière inhabituelle, comme le raser au ras du sol, eh bien, c'est défini comme quelque chose de négatif pour elle, c'est permis. Dans la Gemara, donc, c'est seulement au ras du sol que c'est pas bon. Mais plus que ça, c'est bon. Pourquoi donc laisser trois de Fahim? Ben, explique que trois de Fahim, c'est certifié bon. Au ras du sol, c'est certifié mauvais. Au sujet de la Shemitah, pour être sûr de ne pas transgresser l'interdit, je te dis de faire quelque chose qui est certifié mauvais. Au sujet du Mecher, je te demande de faire quelque chose qui est certifié bon, donc trois de Fahim. Demain, la Gemara, quand tu me dis que Arazim, il peut les décimer parce que Engizal Mahlif, et pourtant, c'est marqué dans la Brita. Ça dit qu'à Tamar, il faudra qu'à Zbalem en Nisgem. Pourquoi est-ce qu'on a donné ces deux parallèles? Parce que si on avait dit que comme Tamar, on aurait dit, si on avait marqué que Erez, pardon, on aurait dit, Erez ne fait pas de perot, c'est-à-dire qu'aussi ne fait pas de perot, c'est pour ça qu'on a marqué Tamar. Et si on a marqué que Tamar, on aurait dit, de la manière que Tamar et Ngizo Machlif, le tzadik non plus, c'est pour ça qu'on a marqué les deux. C'est pour ça qu'on a marqué Erez. En tous les cas, on voit que Erez, oui, Gizo Machlif. Et pour la Gemara, en vérité, il y a 10 sortes de Razim. Elle ramène tous les noms de ces arbres-là. La Gemara, mais ces noms-là, il n'y en a que 7. La Gemara nous dit, il faut rajouter Alonim, Almogim, Almogim. La Gemara explique quels sont ces arbres-là. Comme je l'ai dit dans la vidéo, la traduction, débrouillez-vous. Je vais résumer rapidement ce qu'on a vu. Donc quand on achète les portées d'un nid, eh bien on va les acheter tous ceux de toute l'année, mais on devra laisser la première portée et les enfants de cette première portée. Pour les abeilles, il y a un avis qui pense qu'on va leur donner les trois premiers, un autre avis qui pense qu'on va leur donner sur les trois premiers 1 sur 2, les trois premiers 1 sur 2, et le dernier avis c'est prendre les trois premiers et après 1 sur 2. Il y a un avis, celui qui dit qu'on lui donne les trois premières portées, après on les empêche d'en avoir d'autres en leur donnant du khardal qui va les empêcher, qui va les obliger à manger du miel et donc ils vont arrêter de procréer. Machloket entre Rabbi Eliezer et Chachamim, est-ce qu'une ruche est définie comme karka ou pas avec tout ce que ça implique? Donc si jamais on a acheté un arbre, Betulat Hashikma, il faut laisser trois tefachim pendant la Shemitah, il faut le couper au ras du sol parce que sinon c'est défini comme développement. Kalim et Arazim, il y en a qui Arazim, il y en a qui sont pas Gizan Machlif, il y en a qui sont oui Gizan Machlif. On a vu qu'il y avait 10 sortes de Arazim. On a fait que là-bas au prochain, le demain, Bezrat Hashem.